Une année, ici au catéchisme, j'ai demandé aux enfants qui allaient faire leur première communion, qui s'y préparaient, si le fait de communier à Jésus, hostie, allait faire d'eux des saintes et des saints, allait les sanctifier. Ils m'ont regardé d'un drôle d'air, ne comprenant pas vraiment pourquoi je posais la question. Ils nous font confiance, et ils ont bien raison. Ils voient qu'avec notre diacre, Olivier Rossignol, avec les catéchistes, nous nous conformons, comme nous le vivons ce matin, en cette messe, nous nous conformons à un rituel qui nous dépasse, transmis de génération en génération à travers les siècles, le trésor de l'Église. Le trésor de l'Église. Et c'est en soi, surtout pour les enfants comme pour nous, extrêmement rassurant. Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, les disciples ne demandent pas à Jésus comment il veut célébrer la Pâque. Ils lui demandent où. Où veut-il qu'eux-mêmes fassent les préparatifs? Et ils sont certainement rassurés d'apprendre que le cadre est prêt. Ils savent que la liturgie existe depuis des siècles. Et là, le cadre est prêt. Jésus a tout prévu. Ils n'ont pas besoin de savoir qui est cet homme portant une cruche d'eau. Bon signe de reconnaissance en un temps où seules les femmes faisaient ce travail, portaient ces cruches d'eau. Donc un homme qui porte une cruche d'eau, on le remarque tout de suite. Ils n'ont pas besoin de savoir à qui appartient la maison qui va les accueillir. C'est en tout cas une famille riche pour avoir dans Jérusalem une maison à étage, assez grande pour les accueillir alors qu'ils sont assez nombreux. Une famille riche et généreuse, parce qu'en ces jours de Pâques, la ville de Jérusalem était archibondée. Elle débordait de juifs pieux et de pèlerins de toutes les nations. Signe que dans la pire des cohues, que peut parfois être notre cœur ou notre esprit, Dieu peut toujours trouver un espace de calme pour que nous puissions le recevoir. C'est nous qui souvent en doutons. Il y a quelques semaines, une paroissienne qui allait recevoir le sacrement de confirmation, tardivement mais n'est jamais trop tard, m'a raconté qu'elle en discutait avec l'une de ses amies catholiques. Et cette amie s'en était étonnée, elle avait presque voulu la décourager. Cette paroissienne lui expliquait, elle voulait la force des sacrements, de tous les sacrements, pour se libérer d'entraves, de forces obscures qu'elle imputait, et probablement elle avait raison, à sa participation des années auparavant à des pratiques ésotériques ou spirites. Et cette amie, soi-disant catholique, lui a dit « Non, va plutôt voir une voyante. J'en ai une très bonne à te conseiller. » Et elle avait une logique, en apparence à peu près correcte, de surface. Elle disait « Ces liens qui te font souffrir ne peuvent être dénoués que par ceux qui sont capables de les dénouer, de les nouer. Seuls ceux qui les nouent peuvent les dénouer. » Il faut quand même être un peu tordu, pour penser que les mieux à même de vous délivrer d'un mal sont ceux-là même qui peuvent vous faire du mal. Nous croyons en Dieu parce qu'il ne peut nous faire que du bien. Voilà la raison de notre présence ici. Il ne peut nous faire que du bien, sinon il n'est pas Dieu. Et voilà l'acte de foi que nous devons poser. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous nous remettons devant lui, Dieu ne fait que du bien. Il n'y a aucun danger en Dieu. Et c'est à cela que nous le reconnaissons, Dieu est amour. Dieu est amour de façon absolue, parfaite. Et c'est à cela que nous devrions reconnaître ses enfants, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, dit Jésus. C'est cela qui est nouveau dans son commandement d'aimer. Ce qui est de nouveau, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Ce qui est ancien, ce qui est suranné, obsolète, ce qui est toujours ancien, c'est le refus d'aimer. C'est tellement ancien que nous le nommons originel, le péché de l'origine. À l'origine de nos malheurs, de nos difficultés, de nos souffrances, le refus de Dieu, le manque de confiance en lui. Et pourtant, nous devons particulièrement aujourd'hui, nous devons nous poser cette question difficile, d'essayer de comprendre pourquoi nous avons tant de mal à nous aimer les uns les autres, et pourquoi nous, fidèles catholiques, ne sommes-nous pas meilleurs ? Pas meilleurs que les autres, c'est pas une compétition de cancre. Pourquoi est-ce que, au fur et à mesure où nous avançons, nous avons l'impression de ne pas tellement nous améliorer ? Comment se fait-il qu'étant baptisé, catéchisé, ayant la connaissance des commandements de Dieu, ayant fait notre première communion, notre confirmation, ayant ce lien à la Trinité Sainte que nous avons célébré dimanche dernier, au Père par le baptême, au Fils par l'Eucharistie, à l'Esprit Saint par la confirmation, en allant le dimanche à la messe, en allant nous confesser au moins chaque année, comme le demande l'Église, et plus, non pas si affinité, le plus si besoin. Comment se fait-il que nous soyons encore si loin de la sainteté ? Le pire est pour nous, prêtres. Pour moi, prêtre, qui célèbre la messe tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Mais laissons les prêtres de côté, la liturgie est bien faite. C'est vendredi prochain, la fête du cœur sacré de Jésus. Vous prierez ce jour-là pour nous. Comment se fait-il que nous tous, catholiques, fidèles, pratiquants, soyons finalement si peu catholiques, si peu prompts à nous les aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés? C'est une question difficile, mais quand même essentielle, de l'efficacité des sacrements. Pour le dire de façon un peu triviale, où est-ce que ça bloque? Les plus anciens se souviennent de ce qu'ils apprenaient au catéchisme, à savoir que la particularité des sacrements, c'est d'être efficace en soi. Il y avait une formule latine qui le disait, ils agissent ex opere operato, ce qui veut dire par le seul fait que l'action est accomplie correctement. On veut dire par là, indépendamment des mérites ou de la sainteté de l'exécutant, du ministre. Comme disait saint Thomas d'Aquin, cité par le catéchisme, le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui agit dans les sacrements. C'est pour ça que ces sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Cependant, ajoute le catéchisme, les fruits des sacrements dépendent quand même aussi des dispositions de celui qui les reçoit, et la tradition a défini trois critères. La foi, l'état de grâce et l'intention. Première raison pour que ça bloque, l'insuffisance de foi par ignorance fautive de notre part. L'ignorance, c'est le fléau, c'est le danger permanent, peut-être encore plus grand aujourd'hui, qui expose toutes ses victimes à non seulement toutes sortes d'erreurs, mais de manipulations. Une grande œuvre de miséricorde spirituelle dit « enseignez les ignorants ». Et quand nous avons entendu dimanche dernier, le Christ nous envoie « Allez, dans le monde entier, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur, enseignez-les, apprenez-leur à observer tous les commandements. » Le décalage dans notre vie entre les savoirs que nous accumulons dans toutes sortes de domaines, pas seulement techniques ou professionnels, quand je regarde la télévision et que je vois le nombre de personnes qui connaissent des chansons par cœur, d'un bout à l'autre, et pas une prière. Tant de chansons, plus ou moins sympathiques, et pas une prière. Tant de domaines techniques maîtrisés, et une telle parcimonie, ou une telle misère en matière religieuse.
La règle de saint Benoît ordonne. C'est un chapitre sur le travail manuel, travail quotidien, qui commence de façon explicite, l'oisiveté est l'ennemi de l'âme. Il dit qu'à chaque carême, chaque frère reçoit un livre. On peut penser, il le dit, à chaque carême, c'est-à-dire un livre, on va dire un livre par an, c'est pas énorme, à lire pendant le carême, en entier, d'une manière suivie. Ces livres seront distribués au début du carême et on désignera même un ou deux anciens qui parcourront le monastère aux heures où les frères sont censés lire pour vérifier qu'ils ne sont pas en train de dormir ou discuter entre eux. Et l'usage voulait qu'en rapportant les livres, il y ait quelque chose d'assez beau, un partage fraternel. Chacun dise à la fin du carême le profit qu'il en avait tiré, en quelques mots, ce qu'il en avait gardé. Et s'il y en avait un qui ne pouvait rien dire, hop, il repartait avec son livre, tu le relis.
Nourrir sa foi! Nourrir sa foi! Un livre par an!
Deuxième raison de blocage, la perte de l'état de grâce, de notre lien baptismal avec le Seigneur. Par incohérence de vie, au singulier, au pluriel, ce n'est pas la peine de faire de description, chacun s'y retrouve. L'incohérence de vie.
Il ne faut surtout pas cesser d'aller à la messe pour autant, au contraire.
Il faut y aller même peut-être en semaine. Mais être conscient que tant qu'on n'a pas remis un petit peu d'ordre, les fruits sont forcément plus petits. Troisième point à vérifier, troisième point de blocage, l'intention profonde, l'intention du cœur. Quelle est la grâce que nous sommes venus demander en venant à la messe?
Pas une grâce particulière, pas une intention de prière. Le point de conversion dont profitera non seulement toute l'Église, mais toute l'humanité. Voilà la question à se poser en venant à la messe. Quel est ce point de conversion pour lequel je vais demander la grâce, la force des sacrements, qui va contribuer au salut du monde?
La foi, l'état de grâce,
l'engagement intérieur, l'engagement du cœur. Nous recevons le corps du Christ, l'homme parfait, sans aucun péché, pour que ce corps devienne notre corps, pour pouvoir ensemble, chacun, mais ensemble, avancer, progresser.
Et même pour le dire simplement, progressivement ressusciter.